Christ est ressuscité. Ah, j'espère que c'est votre espérance ce matin de passer l'éternité dans sa présence avec tout ce qu'il est en train de nous préparer. Je vous invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans la première épître aux Corinthiens. Nous lirons les versets 12 à 20. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Et versets 12 à 20. Nous prêchons donc que Christ est ressuscité. Comment alors quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire que les morts ne reviendront pas à la vie? Si c'est vrai, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins, que nous disons des mensonges à l'égard de Dieu, puisque nous avons affirmé qu'il a ressuscité le Christ. Or, il ne l'a pas fait s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, elle est inutile, et vous êtes encore perdus dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si notre espérance dans le Christ est valable uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts reviendront également à la vie. Amen. Amen. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, Seigneur, nous célébrons. Nous célébrons, Seigneur, la suite normale de ta crucifixion, puisque tu avais déjà parlé, Seigneur, de ton vivant à tes apôtres, de ce jour où tu reviendrais de la mort à la vie. Et Seigneur, à ce moment-là, ils ne comprenaient pas. Mais Seigneur, tu leur as apparu. Tu as apparu à plus de 500 personnes aussi, Seigneur, et tu as confirmé que tout ce que tu dis, Seigneur, eh bien, c'est la vérité. Et que tout ce que tu promets, tu l'accomplis. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous rappeler que c'est vraiment à toi que repose notre espérance pour recevoir le pardon de nos péchés. Mais aussi, Seigneur, pour nous ramener un jour de la mort à la vie, afin que nous puissions régner avec toi dans ce nouveau monde que tu es en train de nous préparer. Bénis ta parole ce matin, que tu puisses t'adresser à chaque cœur ici présent, et que ce soit vraiment pour la gloire de ton nom. En Jésus-Christ, nous te prions. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. Le plus grand artiste de l'évasion de tous les temps s'appelait Harry Houdini. Il est mort en 1926. Il est possible que plusieurs d'entre vous n'ayez jamais entendu parler de lui, mais à son époque, il faisait courir les foules. Il semblait qu'il n'y avait aucun moyen de pouvoir emprisonner Harry Houdini. On l'enfermait dans les meilleures cellules dans les prisons. En quelques instants, il était dehors. On lui mettait les menottes, elles tombaient immédiatement sur le sol. On le mettait dans un sac en toile en scellant le dessus du sac et il en sortait aussitôt. On l'enfermait dans de grandes citernes dont on avait soudé le couvercle. Il en ressortait aussitôt. On le déposait dans un cercueil, dans un cercueil à lequel on avait posé des chaînes tout le tour du cercueil. On le laissait tomber, on plaçait le cercueil dans un fleuve. Il en ressortait aussitôt. Certains pensaient qu'il avait des dons surnaturels. Il avait la souplesse d'une anguille, dit-on, et une intelligence hors du commun. Mais au mois d'octobre 1926, la radio annonçait la nouvelle qu'Harry Houdini était mort. Pendant qu'il était vivant, il avait eu des contacts avec ceux qui parlaient soi-disant morts. Il avait consulté ceux qui pratiquaient la parapsychologie, et les diseurs de bonne aventure. Et il en était arrivé à la conclusion que tous ces gens étaient des manipulateurs et des charlatans. Mais il se posait toujours la question suivante. Est-ce que quelqu'un peut vraiment échapper à la mort? Il en avait parlé à sa femme et il lui avait donné un code secret contenant un seul mot qu'elle devait prononcer le jour de l'anniversaire de sa mort. Il lui avait dit qu'il essaierait de la contacter à partir de l'au-delà. Il lui avait demandé de se concentrer, de se tenir prêt, qu'il entrerait en contact avec elle ce jour-là. Le jour du premier anniversaire de sa mort arriva. Sa femme alluma une bougie et s'assit devant sa photo. Il ne la contacta pas. Ni le deuxième, ni le troisième, ni la quatrième, ni la cinquième, ni la sixième, ni la septième, ni la huitième, ni la neuvième année, ni la dixième année. Jamais Harry Houdini a pu se révéler à sa femme après sa mort. Au bout de la dixième année, sa femme éteignit la bougie et n'essaya plus jamais de la rallumer. La mort qui a fait son apparition à partir d'Adam gardait maintenant captif Harry Houdini et il n'a jamais pu s'en échapper. Jésus a été enseveli dans un tombeau. Il y est resté 3 jours et il est sorti comme un papillon éventrant un cocon. En laissant dans le tombeau les bandes de lin, nous dit la parole dans l'Évangile de Jean, en déposant les bandes de lin, ainsi que le linge qu'il avait eu sur sa tête. Frères et sœurs, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est le Sauveur ressuscité. Il a fait ce que Harry Houdini n'a jamais pu faire, ni personne d'autre. Une question me vient à l'esprit, quelque chose d'impensable. Supposons que Jésus-Christ, frères et sœurs, serait toujours dans le tombeau. Supposons qu'il n'est jamais revenu de la mort à la vie, qu'il n'est pas ressuscité. Eh bien, j'aimerais vous partager 6 choses tragiques qui seraient une réalité pour nous si Christ était encore aujourd'hui dans son tombeau. Et la première chose tragique, si Christ n'est pas ressuscité, frères et sœurs, Paul nous le dit au verset 14, pour ceux qui ont leur Bible, verset 14, « Prêcher ne servirait à rien. Prêcher ne servirait à rien. » Ce que nous sommes en train de faire ce matin serait un exercice inutile. Relisons, si vous le voulez bien, le verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. Si Christ n'est pas ressuscité, je n'ai rien à prêcher et je n'ai rien à croire. Je suis sans espérance comme tous les gens dans ce monde. Mes amis, si Jésus est toujours dans ce tombeau, vous perdez votre temps et je perds le mien. Non seulement ce que nous sommes en train de faire ne nous apportera rien de plus, mais nous n'avons rien à prêcher si Christ est toujours dans le tombeau. Mais voilà, annoncer l'Évangile, c'est annoncer la vie éternelle, frères et sœurs. C'est annoncer que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il a été enseveli, qu'il a été ressuscité le troisième jour. Et si ce n'est pas le cas, dit l'apôtre Paul, nous n'avons rien à prêcher. Rien à prêcher. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité et qu'il est toujours dans ce tombeau, deuxièmement, non seulement cela ne nous sert à rien de prêcher, mais il nous est inutile de croire. Et frères et sœurs, quand on rencontre les gens et qu'on veut leur rendre témoignage et qu'ils nous demandent sur quoi repose notre foi, c'est de dire que nous croyons dans la résurrection des morts. C'était le slogan des chrétiens de l'Église primitive. Non seulement que Christ était mort pour leurs péchés, mais nous croyons en la résurrection des morts. Quand vous parlez avec les gens à l'extérieur et que vous leur dites, « Écoute, est-ce que tu crois qu'il y a une vie après la mort? » Les gens nous disent toujours, « Bien, il n'y a personne qui est revenu pour nous en parler. » Eh bien, le chrétien peut dire, « Oui, Christ est revenu de la mort à la vie et je crois dans la résurrection des morts. » Je crois que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Il y a une vie après la mort. Celui qui en a parlé, eh bien, il est revenu pour nous confirmer exactement que ce qu'il disait, c'était vrai. Et il y a une promesse qui nous est donnée dans les Écritures aussi, que Christ nous a donnée aussi, c'est que tous ceux qui mettent leur confiance en lui, de la même manière que le Père leur a amené de la mort à la vie, de la même manière, il ramènera tous ceux qui ont placé leur confiance en lui de la mort à la vie. Vous dites amen à ça ce matin. C'est important qu'on puisse garder nos yeux fixés là-dessus. Mes frères et sœurs, le moment arrive où le Seigneur Jésus revient bientôt. Et j'espère que vous gardez vos yeux fixés là-haut et non pas dans cet amas de ruines qui traîne sur la terre ou dans notre époque soi-disant très civilisée, Il n'y a jamais eu autant de guerre sur la Terre. Vous savez qu'il y a la moitié de la Terre qui est en guerre présentement, la moitié de la surface de la Terre qui est en guerre. Ça dépasse ce qu'on a vécu à la dernière guerre mondiale. La moitié de la Terre est en guerre et l'autre moitié est en insécurité avec tous les actes de terrorisme et tout ce qui se passe. Frères et sœurs, Jésus-Christ non seulement est mort pour nos péchés, non seulement il est ressuscité, mais il revient bientôt. Il revient bientôt. Et toutes les générations de chrétiens, à travers les signes que la parole nous donne, ont aspiré à voir un jour Jésus-Christ revenir à leur génération. Mais je peux dire une chose, et je ne le prophétiserai pas, mais je peux le déclarer ce matin. Jésus-Christ est beaucoup plus près de revenir aujourd'hui qu'il était hier, et il sera encore beaucoup plus près demain s'il n'est pas revenu aujourd'hui. Vous avez compris ce que je viens de dire? Parfait, je n'étais pas certain de m'avoir compris, donc c'est pour ça que c'est bien que je vous le demande. Mais je vous le demande. Seigneur Jésus revient bientôt. Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher, vous n'avez rien à croire. À quoi nous servirait-il de mettre notre foi dans un Messie qui est toujours mort, frères et sœurs? Un homme qui est mort ne peut sauver personne. Et si Jésus-Christ est toujours dans le tombeau, notre foi en Jésus-Christ ne vaut rien. Comment savons-nous qu'il est le Fils de Dieu? Romains chapitre 1, verset 4. Comment savons-nous, Paul dit, Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, manifesté Dieu le Fils avec puissance, lorsque le Saint-Esprit et l'Esprit Saint l'ont ramené de la mort à la vie. Confucius est mort, il est toujours dans son cercueil. Bouddha est mort, il est toujours dans son cercueil. Mahomet est mort, il est toujours dans son cercueil. Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité et il est vivant. Amen. Un enseignant a demandé un jour à ses étudiants d'écrire un essai sur le plus grand homme vivant présentement sur la terre. Et un étudiant osa écrire un essai sur Jésus-Christ. Après avoir lu le travail, son enseignant lui dit, « C'est un excellent essai, mais j'avais demandé de faire un travail sur le plus grand homme vivant présentement sur la terre. » Et l'étudiant de répondre, « Monsieur, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant. » Nous ne mettons pas notre foi dans un Messie qui est mort. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Mais s'il était toujours dans son cercueil, frères et sœurs, nous n'avons rien à prêcher. Non seulement nous n'avons rien à prêcher, non seulement nous n'avons rien à croire, mais l'apôtre Paul nous dit au verset 15 et 16 que les disciples sont des imposteurs. Lisons ensemble, versets 15 et 16. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins, que nous disons des mensonges à l'égard de Dieu, puisque nous avons affirmé qu'il a ressuscité le Christ. Or, il ne l'a pas fait s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et pourquoi Paul écrit ça dans l'Épître aux Corinthiens? Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de générations qui se sont passées, mais déjà, on laissait entendre que qui dit qu'il est vraiment ressuscité? Et le Seigneur va apparaître à des centaines de témoins. Des centaines de témoins. Déjà, à cette époque, on remettait en question cet événement extraordinaire qui manifestait la puissance de Dieu. Frères et sœurs, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, les disciples sont des imposteurs. Remarquez ce que Paul dit au verset 15 ici. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins, c'est-à-dire que nous disons des mensonges. Il est important de bien saisir, frères et sœurs, ce que Paul est en train de dire ici. Il ne dit pas que si Jésus est toujours dans le tombeau, alors nous sommes dans l'erreur et nous mentons. Parce que, frères et sœurs, c'est une chose de se tromper. C'est une chose, une autre, d'être un faux témoin. Par conséquent, nous devons nous poser la question suivante. Est-ce que les disciples mentaient? Est-ce qu'ils cherchaient à nous tromper? Pardon, si c'est le cas, pourquoi? Pourquoi auraient-ils cherché à nous tromper? Pourquoi auraient-ils menti? Eh bien, vous pourriez répondre, eh bien, les gens mentent par profit ou pour obtenir un avantage quelconque. Mais qu'est-ce que ça pouvait leur apporter de plus de dire que Jésus était vivant s'il était toujours dans le tombeau? Qu'est-ce que ça pouvait leur apporter de plus? Frères et sœurs, comment les disciples sont-ils morts? Ils sont morts en martyrs. Certains ont été torturés. D'autres ont été persécutés. Certains ont été brûlés sur un bûcher. D'autres ont servi de repas aux lions. Plusieurs ont été lapidés. Et tous ont été humiliés à cause d'un mensonge. Non, à cause de leur foi. Frères et sœurs, les hypocrites et les martyrs ne font pas partie de la même race. La plupart du temps, lorsque les gens racontent des mensonges, c'est pour éviter, pour avoir des problèmes et non pas pour avoir des problèmes. Quelqu'un peut vivre pour un mensonge, mais il y a peu de gens qui accepteraient volontiers de mourir pour quelque chose qui n'est pas vrai, sachant que c'est un mensonge. Ces témoins sont en train de dire, écoutez, nos yeux l'ont vu, nos mains l'ont touché et nos oreilles l'ont entendu. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 1. Allez-vous me dire que Simon-Pierre était un idiot? Allez-vous me dire que l'apôtre Jean était un escroc? Et que l'apôtre Paul, qui a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament, eh bien, était connu pour quelqu'un qui se parjurait, pour quelqu'un qui trompait les gens? Allez-vous me dire que ces hommes qui sont morts seraient morts pour un mensonge? Bien sûr que non, frères et sœurs. Si Jésus-Christ est encore dans le tombeau, Paul dit ceci au verset 17. Et ça, c'est une chose importante pour nous qui sommes nés de nouveau. Le péché continue à dominer sur nous, puisqu'il n'a jamais été vaincu. Et ça, c'est un des privilèges que le chrétien obtient quand il est né de nouveau. Et c'était une des paroles que John Wesley aimait répéter. Le privilège du chrétien né de nouveau, c'est la délivrance du péché. La délivrance du péché, frères et sœurs. Ça, c'est permis uniquement à ceux qui sont nés de nouveau. Parce que l'Esprit de Christ habite en eux. Verset 17, lisons encore une fois ce que Paul dit au verset 17. « Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, ou vaine dans la Louis II, et vous êtes encore perdus dans vos péchés. C'est-à-dire que personne n'est épargné puisque nous avons tous péché. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas péché. Qui ici ce matin peut dire « Moi, je n'ai jamais péché ». Personne ne peut lever la main pour dire « Moi, je n'ai jamais péché ». Personne. Même si Jésus-Christ est toujours dans le tombeau, si Jésus est toujours dans le tombeau, frères et sœurs, vous êtes un pécheur et vous n'avez aucun espoir d'être pardonné en dehors, non seulement de la mort de Christ, mais aussi que confirmé par sa résurrection que le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant a accepté le sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. Dieu, frères et sœurs, ne peut tout simplement pas ignorer le péché. Si Dieu cessait de juger le péché, Dieu cesserait d'être un Dieu saint. Si Dieu devait prendre à la légère le péché, Dieu devrait abandonner son trône de sainteté. Mais voilà, frères et sœurs, Dieu ne laissera jamais le péché impuni. Votre péché sera pardonné en Christ, ou il sera puni en enfer, mais il ne sera jamais oublié. Chers amis, si Jésus-Christ est toujours dans le tombeau, cela signifie que Dieu n'a pas accepté le sacrifice qu'il a accompli au calvaire. Comment pouvons-nous savoir que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu? Comment savoir que Jésus-Christ n'est pas simplement un fanatique religieux? Comment savoir que Jésus-Christ n'est pas simplement un illuminé qui voulait mourir en martyr, qu'il a tout fait pour se faire crucifier pour ensuite disparaître et qu'on se rappelle de lui à tout jamais, comme celui qui s'est écrasé, le pilote qui a fait écraser un avion et qui a entraîné 150 personnes avec lui? Quand on lit son histoire, il a voulu mourir et entraîner 150 personnes avec lui pour qu'on se souvienne de son nom. Quel acte de folie! Quel désespoir dans le cœur de ce pilote! Frapper une montagne à 700 km à l'heure. On ne ramasse que des morceaux, il n'y a plus rien qui est identifiable. Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ est assez fou pour assez illuminé, sachant qu'il n'est pas ce qu'il est, qu'il serait mort sur une croix martyr, simplement pour qu'on se souvienne de lui, et qu'on voit ça comme un acte de folie, plutôt comme étant le seul moyen par lequel Dieu a trouvé pour pouvoir faire en sorte que nos péchés soient pardonnés, qu'un innocent puisse payer pour les coupables. Frères et sœurs, comment savons-nous que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus-Christ accompli au calvaire à travers la résurrection? Romains chapitre 4, verset 25, Paul nous dit, « Il a été livré à la mort à cause de nos péchés et il a été ramené à la vie pour nous rendre justes devant Dieu. » Juste devant Dieu. Mort à la croix, livré pour nos péchés, mais ramené de la mort à la vie pour qu'on soit reconnu juste devant Dieu. Ça prend les deux. Moi, si Christ est mort, il n'est jamais ressuscité, je n'ai pas d'espérance. Mais la résurrection, frères et sœurs, la résurrection. La résurrection, elle change tout. Elle change tout. Elle confirme que non seulement mes péchés ont été acceptés à la croix sur les épaules de Christ par Dieu, que mes péchés sont pardonnés. Moi aussi, frères et sœurs, la résurrection me confirme qu'il y a une vie éternelle qui m'attend. Non pas privé de la présence de Dieu pour l'éternité, mais dans sa présence pour l'éternité. Et j'espère que tous et chacun ici ce matin, sans exception, vous avez cette même espérance. Que votre foi s'appuie sur la résurrection de Jésus-Christ. Mort pour vos péchés, ramené de la mort à la vie trois jours après. Et que vous êtes appelés, et que vous êtes appelés maintenant non seulement des enfants de Dieu, mais des héritiers de Dieu. Que vous êtes aussi des prêtres en Jésus-Christ. Et que vous êtes appelés aussi à régner avec lui pour l'éternité. J'espère que ça vous garde le cœur en joie ce matin face à tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà un message qui est encourageant. Nos politiciens, nos gouvernements n'ont rien d'autre à offrir aux gens. Rien, rien, rien. Ils sont dépassés parce que ce sont des spéculateurs qui dirigent notre monde aujourd'hui. Et nos gouvernements ont perdu la main sur leur propre politique. Mais on a quelqu'un qui a prédit tout ça. La parole de Dieu nous a prédit tout ça. Dieu nous a prédit tout ça à travers sa parole. Et on peut lui faire confiance, parce qu'une une chose qui établit la crédibilité de la parole, ce sont les prophéties. Les prophéties qui ont été annoncées, qui se sont toutes réalisées. Il en reste encore quelques-unes. Mais pour être capable d'annoncer des choses qui vont arriver d'avance, ça veut dire qu'on a déjà vécu, on a déjà voyagé dans ce temps avant que ça arrive. Et c'est notre Seigneur, c'est le Dieu Tout-Puissant qui nous a prophétisé. Quel merveilleux Dieu de grâce, frères et sœurs. Est-ce que vous réalisez la grâce qu'on a? La grâce qu'on a. Qu'il y a un chrétien qui a osé, que vous avez croisé un jour, qui a osé s'ouvrir la bouche et de vous parler de la bonne nouvelle, qui parle de Jésus-Christ. Quelle tristesse de voir en Europe, en Amérique, au Canada, que des gens entendent parler de Jésus-Christ à chaque semaine et qu'ils le rejettent. Alors que dans certains coins du monde, il y a des gens qui n'ont jamais encore entendu parler de Jésus-Christ. Quel gâchis de savoir le nombre de Bibles, de versions qu'on a à la maison et qui traînent dans nos bibliothèques. Comme notre frère Ernest disait hier, dont les Bibles sont pratiquement neuves après 20-30 ans, qui n'ont jamais été ouvertes. Alors que dans certains pays, il y a des gens qui n'ont même pas pu avoir la grâce de pouvoir tenir une seule page dans leur vie, dans leurs mains. Frères et sœurs, quelle grâce le Seigneur nous a fait. Quelle grâce. Il y a des pièges dans notre monde occidental. C'est qu'on entend tellement parler de la parole qu'on en est gavé. Il y a des gens qui en sont gavés. Ça leur sort par les oreilles, ça leur sort de partout. On l'a tellement entendu souvent qu'on ne l'entend même plus. Alors qu'il y a des gens qui crient, qui pleurent, qui aspirent, qui espèrent qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Le Seigneur Jésus avait raison à son époque et il aurait encore raison aujourd'hui s'il était au milieu de nous. Il nous dirait, priez le Père d'envoyer des gens dans la moisson parce qu'il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers parce que mes enfants se préoccupent beaucoup plus de réussir leur vie dans ce monde que dans le royaume de Dieu. Priez le Père dans la moisson d'envoyer des gens. À quoi sert-il un homme de gagner son âme? À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il à nos enfants de gagner des diplômes, de gagner des gros salaires, si c'est pour les retrouver en enfer pour l'éternité, frères et sœurs? Quelle grâce Dieu nous fait de pouvoir avoir différentes versions, de pouvoir se réunir en toute liberté dimanche après dimanche, d'entendre sa parole. Que nos cœurs, à chaque fois que nous l'entendons, puissent être ouverts et réceptif pour laisser le Saint-Esprit faire un travail en profondeur, faire une vidange, le gros entretien de nos cœurs qu'on a besoin régulièrement. Parce que notre cœur, il est porté, à, comme les vieux moteurs diesel, à s'encrasser si facilement. Et souvent, on n'a pas besoin juste d'un petit entretien, on a besoin d'un gros entretien. Et notre Seigneur, il est vivant, et par son Esprit, c'est la mission à laquelle il s'est donné, faire un grand nettoyage dans nos vies, pour qu'après ça, à travers nous, on puisse aller vers les autres et faire un nettoyage dans la vie des autres. Quelle grâce on a de pouvoir partager l'Évangile, frères et sœurs. C'est une grâce. Je le répète de temps en temps, mais ça n'a même pas été donné aux anges. Frères et sœurs, quelle grâce! Quelle grâce nous avons! Et le psalmiste nous dit, « Quelle créature merveilleuse nous sommes! » Quelle créature merveilleuse nous sommes! Incroyable! Incroyable! Comment Jésus a-t-il pu accepter de mourir pour des pécheurs tels que vous, pour des pécheurs tels que moi? La Bible nous dit qu'on était ennemis de Dieu quand il est mort, ennemis de Dieu. Les frères et sœurs, on a de la misère à se parler des fois, entre frères et sœurs dans certaines églises, parce que quelqu'un nous a regardé de travers. Et là, on attend qu'ils viennent nous voir. Qui viennent nous voir pour nous demander pardon, pour qu'on commence à le regarder et à lui parler. Heureusement que ce n'était pas la devise du Seigneur d'attendre qu'on vienne le voir pour lui demander pardon avant de monter sur la croix, n'est-ce pas? On serait tous perdus pour l'éternité. Quel Dieu de grâce on a! Il a donné, il a donné. Il nous a donné l'Évangile, il nous a donné son Fils, il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné un nouvel espoir. Quelle grâce! Qu'on ait un Dieu qui n'a pas vendu son salut à coup d'argent, personne n'aurait les moyens de se le payer. Personne! Regardez ce que ça a coûté. La vie du Fils. Dieu lui-même en Jésus-Christ qui vient s'offrir. Pour de la racaille. Pour des gens qui se prennent pour le nombril du monde. J'étais dans ce groupe-là. Et j'espère que vous vous comptez parmi ce groupe-là. Et en Jésus-Christ, Dieu fait un travail en profondeur. Et la Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et j'espère que ce matin, vous avez l'assurance dans votre cœur que Dieu vous aime tous d'une façon égale. Que Dieu ne m'aime pas plus, ne m'aime pas moins qu'un autre, qu'il nous aime tous de façon égale. Amen. Si Christ était dans le tombeau, cinquième, et je vais terminer avec le sixième, la mort continue à régner puisqu'elle n'a pas été vaincue. Verset 18, c'est pas moi qui en parle, c'est l'apôtre Paul. Verset 18, non seulement le péché continue à dominer sur nous, mais la mort continue à régner sur nos vies. Regardez le verset 18, il en résulte, dit Paul, aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Frères et sœurs, avez-vous perdu un ami, un être cher, un père, une mère, un frère, une sœur, une épouse, un mari, un ou plusieurs enfants? Oubliez-les. Ils sont disparus, ils sont retournés en poussière, c'est tout. C'est terminé. Car si Christ est toujours dans le tombeau, la mort continue à les maintenir captifs et la vie n'est rien d'autre qu'une énorme farce. Nous pouvons tous nous attendre un jour à tomber malade. Ou à mourir subitement pour être ensuite déposé en terre ou être incinéré et retourner en poussière si Christ n'est pas vaincu la mort, frères et sœurs. Allez-vous me dire que la vie vaut la peine d'être vécue si la vie de l'homme se limite à entretenir des liens d'amicaux avec ses semblables, à accomplir de belles choses durant sa vie et qu'ensuite tout s'arrête là, qu'on nous dépose dans un cercueil, qu'on nous enterre et que c'est terminé? Frères et sœurs, j'espère qu'il n'y a personne qui s'attend uniquement que ça s'arrête là, dans cette salle ce matin. Est-ce que c'est là votre unique espérance pour certains ce matin? Je me souviens, lors d'une visite dans un salon funéraire, il y avait beaucoup de fleurs qui entouraient le cercueil. Et parmi les différents arrangements, il y en a un qui a attiré mon attention. Et sur la carte, il y avait écrit ceci, « À pop-pop ». C'était les petits-enfants qui avaient demandé qu'on écrive finalement, ces mots suite au décès de leur grand-père, à pop-pop. Un homme qui avait été membre d'une église pendant de longues années et qui était respecté par tous et chacun dans sa communauté. J'ai pensé que les petits-enfants voulaient que cet arrangement floral, qu'ils voulaient simplement dire au revoir à leur grand-père, qu'ils appelaient affectueusement pop-pop. Je suis allé saluer et ensuite saluer la veuve. Une personne reconnue pour avoir une grande foi. Elle se dirigea vers le cercueil de son mari, qui était encore ouvert. Elle posa la main sur son bras et elle le tapota à quelques reprises. Puis elle est allée s'asseoir. Je me disais, est-ce que la vie se résume à cela? Pop-up est parti. Le mari est mort. Il est parti avec toutes ses années, après toutes ces années, passées sur la terre, pour retourner en poussière et c'est terminé, voilà. N'en parlons plus. Non, frères et sœurs, la mort n'a plus de pouvoir sur le chrétien parce que le Christ est ressuscité. Et ceux qui sont endormis en croyant en Jésus-Christ, Paul nous dit qu'ils n'ont pas disparu à tout jamais parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est vivant. Il est vivant. Christ est ressuscité.
Il est
Christ est ressuscité.
Il est
amen, amen. Comme il est bon de savoir, frères et sœurs, qu'il y a un Dieu qui s'est fait homme dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu enlever à la mort le pouvoir qu'elle avait sur nous en ressuscitant des morts. Vous vous imaginez que pour la première fois, il y a une lumière qui est descendue dans les ténèbres, qui est allée chercher les clés du séjour des morts, et qui a amené dans son cortège tous les croyants de l'Ancien Testament, y compris le malfaiteur sur la croix. Christ en est dans son cortège de victoire, il les a amenés avec lui. Frères et sœurs, dans ce paradis qu'il nous promet, il est bon de se rappeler, frères et sœurs, que tous ceux qui sont nés de nouveau, la mort n'a plus de pouvoir sur eux, parce que Christ a vaincu la mort lorsqu'il est revenu à la vie. Dernier point, frères et sœurs, si Christ est toujours dans le tombeau, nous sommes sans espérance pour l'avenir, nous dit l'apôtre Paul, verset 19. Réalisons ce que Paul dit au verset 19. Si notre espérance dans le Christ est valable uniquement pour cette vie, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, nous dit Paul. Quelqu'un de sage a dit un jour, si Jésus-Christ est toujours dans ce tombeau, rien ne compte vraiment. Mais si Jésus-Christ est sorti du tombeau, il n'y a rien d'autre qui compte vraiment. Saisissez. Si Christ est toujours dans le tombeau, frères et sœurs, il n'y a rien qui compte vraiment. Mais si Christ est sorti du tombeau, il n'y a rien d'autre dans ce monde qui ne compte, qui vaut la peine d'être vécu que cette espérance que nous avons. Êtes-vous d'accord avec cela? Parce que, chers amis, si Christ n'est pas ressuscité, non seulement nous sommes de pauvres imbéciles, mais nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, nous dit l'apôtre Paul. Nous sommes toujours dans le brouillard et nous n'avons aucune espérance pour l'éternité. Aucune espérance pour l'éternité. Mais en réalité, Jésus-Christ est sorti de ce tombeau et il enleva à la mort non seulement le pouvoir qu'elle détenait sur nous, mais aussi la peur qu'elle provoque en nous, la peur de mourir. J'ai déjà raconté il y a quelque temps, j'ai connu une dame au Canada qui avait 40 ans et qui prenait des médicaments pour ne pas dormir, de la peur de ne pas se réveiller le lendemain matin. Elle n'avait pas une petite trace noire en dessous des yeux, elle avait des cernes. Comme les clowns, la façon qu'ils se maquillent, tellement qu'elle était cernée. Mais je lui disais, pourquoi vous prenez tous ces médicaments-là? Je ne veux pas dormir parce que je ne sais pas si je vais me réveiller. La peur de mourir. Mes frères et sœurs, le chrétien qui est né de nouveau, il n'a pas peur de mourir. La mort ne peut plus le retenir, nous dit l'apôtre Paul. À cause de la résurrection de Jésus-Christ, la mort ne peut plus le retenir. Pas merveilleux? Pas merveilleux de savoir que ceux que vous avez aimés, avec qui vous avez partagé votre vie, avec qui vous avez travaillé dans des ministères, vous allez les revoir un jour. C'est pas terminé. Et ça n'est qu'un au revoir. Le Seigneur Jésus, ce qu'il a dit à ses disciples, hein, ce n'est qu'un au revoir. Je m'en vais vous préparer une demeure là-haut. Et je vais revenir. Je vais revenir vous chercher. Et notre prière ce matin, c'est Seigneur, reviens le plus vite possible. Reviens le plus vite possible nous chercher. Albert Einstein était un génie. Une revue américaine, le Times Magazine, l'avait nommé, non pas l'homme de l'année, mais l'homme du 20e siècle. Albert Einstein connaissait beaucoup de choses, mais comme beaucoup de personnes, y compris moi, il était très, 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 très distrait. Un jour, alors qu'il se trouvait dans un train en direction de Princeton, le contrôleur arriva à la hauteur de son siège et lui demanda de lui présenter son billet afin qu'il puisse le poinçonner. Einstein ne pouvait pas trouver son billet. Il cherchait partout, ouvre sa mallette, trouve pas son billet. Il était incapable de trouver son billet de train. Et pour le rassurer, le contrôleur va lui dire ceci: « Monsieur, je sais qui est, je sais que vous avez acheté votre bien, je sais qui vous êtes le docteur, vous êtes le docteur Albert Einstein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. » Et le contrôleur va poursuivre son travail en poinçonnant en prenant les cartes, finalement, des billets des uns des autres, et il va poinçonner, puis il rend une quinzaine de mètres, il se retourne, et il voit Albert Einstein qui est à genoux en dessous de son siège. Alors là, il ne peut pas s'empêcher d'aller le trouver. Il va le retrouver et il voit qu'il est à genoux puis qu'il regarde en dessous de son siège partout. Alors il dit, écoutez, M. Einstein, soyez sans crainte, tout est arrangé. Je vous répète que je sais que vous êtes, que ne soyez pas inquiet, je sais qui vous êtes et je vous fais confiance. Et le docteur Einstein de lui répondre, je sais qui je suis, mais je veux juste savoir où je vais. Chers amis, en terminant, est-ce que vous savez où vous allez passer l'éternité? Savez-vous qui vous êtes en Christ? Avez-vous l'assurance ce matin que vos péchés sont pardonnés? Êtes-vous certain que Jésus-Christ habite dans votre cœur par son Saint-Esprit? Si oui, alors j'aimerais vous dire que prêcher est utile et que tout est possible pour celui qui croit. Nous pouvons donc nous appuyer sur le témoignage des disciples. Le péché a été maîtrisé. La mort a été vaincue. Nous savons où nous allons. Et ce qui nous attend dans le futur, frères et sœurs, est indescriptible. Je vous invite à incliner la tête et à fermer les yeux dans un esprit de recueillement.